France, Algérie, anatomie d'une déchirure.
Près de 2 siècles après la conquête de l'Algérie par la France et 62 ans après la décolonisation, les relations entre la France et l'Algérie demeurent à vif, les mémoires tourmentées et instrumentalisées. Quelle est l'histoire des relations entre la France et l'Algérie? L'histoire d'une plaie impossible à cicatriser?
Thomas Negaroff.
Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Benjamin Stora.
Épisode 3, 1936, l'Algérie n'est pas à vendre.
Nous rejetons de toutes nos forces le rattachement de l'Algérie à la France. Cette terre bénie est la nôtre. Elle n'est ni à vendre, ni à acheter, ni à hypothéquer. Ses héritiers sont là. Messali Hadj, le 2 août 1936. Benjamin Stora, on poursuit ensemble ce voyage dans 2 siècles d'histoire complexe entre la France et l'Algérie. Messali Hadj, un discours indépendantiste en 1936. Qui est-il, Messali Hadj, en 1936?
Messali Hadj est né en 1898 à Tlemcen, dans une famille pieuse. Il appartient à la confrérie de Derkawa, qui est une grande confrérie maraboutique. Et il a été un soldat de la Première Guerre mondiale. Il a fait l'expérience de la métropole.
On en parlait dans l'épisode précédent.
Dont on parlait dans l'épisode précédent. Et donc, de retour en Algérie, il veut revenir en France. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres soldats démobilisés qui ont fait l'expérience de la métropole et qui vont venir ensuite constituer les premiers contingents de migrants dans les années 20, 21, 22, 23. Messali va entrer en contact avec le Parti communiste français pendant la campagne que ce parti livre contre la guerre du Rif en 1925.
Donc là, c'est au Maroc plutôt ?
Là, c'est au Maroc, absolument.
Avec le général Pétain.
Voilà, avec Pétain et celui qui dirige la campagne en 1925, qui s'appelle Jacques Doriot, dans le Parti communiste français. Et donc Messali va participer, disons, à ce mouvement qui voit la naissance de l'étoile nord-africaine en 1926. Donc, par parenthèse, l'année prochaine, en 2026, nous fêterons le premier anniversaire, le centenaire de la création de l'Étoile nord-africaine, qui est la première organisation à vouloir l'indépendance pour les 3 pays d'Afrique du Nord et principalement de l'Algérie. Ça, c'est le courant indépendantiste, le courant radical. Messali va se séparer des communistes, devenir exclusivement nationaliste. À partir de la dissolution de l'Étoile en 1929, il va créer ce qu'on appelle la glorieuse Étoile nord-africaine en 1933. Et donc, ce sera un courant indépendantiste.
C'est intéressant. Il dit nord-africaine parce qu'il y a déjà l'idée d'une unification du Maghreb.
Tout à fait. Tout à fait. Il y a la possibilité d'unifier les combats nationalistes avec des partis marocains et tunisiens, c'est-à-dire au Maroc l'Istiklal.
Qui veut dire l'indépendance.
L'indépendance. Et en Tunisie, le Destour, puis le Néo-Destour de Bourguiba, bien entendu. Et donc, Messali appartient à ce courant-là, ce courant radical. Mais à côté de ce courant, va exister 2 autres courants qui vont naître à cette époque-là. Le mouvement des Olémas, les réformistes religieux, en fait, avec Abdelhamid Ben Badis, originaire de Constantine, qui a une devise qui est « L'Algérie est ma patrie, l'islam est ma religion, l'arabe est ma langue ». C'est la devise des Olémas, qui ne réclame pas l'indépendance de l'Algérie, mais il se revendique d'une appropriation, une réappropriation culturelle, identitaire, pourrait-on dire aujourd'hui, mais pas une séparation avec la France. Et puis enfin, un troisième courant. C'est un courant des premiers élus musulmans, car il y a eu ce qu'on appelle les lois Jonas en 1919, où quelques-uns, disons, des musulmans avaient le droit de vote, très très faible, dans un collège séparé. Et donc les premiers élus, premiers notables musulmans, font leur apparition et qui défendent, disons, leurs coreligionnaires. C'est le cas de Ferhat Abbas, qui est pharmacien à Sétif. C'est le cas du docteur Benjelloul à Constantine, qui sont des premiers notables musulmans et qui vont créer ce qu'on appelle la Fédération des élus dans le Constantinois, dans l'Est algérien. Donc, 3 courants.
Et quel est l'écho de ces courants au sein de la population musulmane indigène d'Algérie qui est, rappelons-le et précisons-le, ultra-analphabétisé.
Hein,
l'histoire de la civilisation, il y a 85% de la population qui est analphabète au moment de la guerre d'indépendance, qu'on verra dans un épisode prochain. Donc, est-ce que ces mouvements politiques, plutôt intellectuels, ont un écho dans la population ?
En France, dans l'immigration exclusivement, le mouvement indépendantiste est très puissant. Mais dans l'immigration ouvrière, mais en métropole, pas en Algérie. Il va falloir attendre l'arrivée de Messali au stade d'Alger avec le discours que vous avez énoncé tout à l'heure.
En 36.
En 36, pour que l'idée indépendantiste franchisse la Méditerranée. Mais les deux autres courants, c'est-à-dire celui de Ferhat Abbas et celui de Ben Badis, sont des courants importants.
D'accord.
Bien sûr, ils appartiennent à une forme d'élite. Ferhat Abbas est un républicain musulman, en fait. Il n'est pas partisan de l'indépendance de l'Algérie à cette époque-là. Il est partisan de l'assimilation, dans le sens de l'égalité républicaine. C'est son mot d'ordre. Et son mot d'ordre est très simple. Il écrit un livre qui s'appelle « Le jeune Algérien » en 1931, où il dit « Pouvons-nous être musulmans et républicains à part entière ?» Et il répond « Oui ». Mmh. Oui, livre de 1931.
Hyper intéressant. Ouais.
Et là, il lance la notion d'égalité. Et puis le courant religieux, réformiste, qui est un courant laïcisant, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il réclame la possibilité de pouvoir administrer le culte musulman religieux indépendamment du pouvoir colonial.
Ouais, dans la République.
Dans la République, donc sans se séparer. Et sans Donc ce sont des courants qui ont une audience. Il ne faut pas croire que ce sont des courants minoritaires. Ce sont des courants qui forment, en fait, le nationalisme.
Est-ce qu'ils inquiètent en métropole ?
Oui, absolument. L'étoile nord-africaine d'abord, qui présente le danger le plus grand, parce qu'il est pour la séparation. Donc l'étoile est sans arrêt dissoute, Messali est plusieurs fois arrêté.
Oui, t'as dit 26, dissoute en 29. Ouais.
Dissoute en 29, dissoute encore par le Front populaire. En 1937, le Front populaire va encore dissoudre l'étoile nord-africaine. Messali a été arrêté plusieurs fois et il va aller se réfugier, s'exiler en Suisse. C'est le cas aussi des tracasseries administratives contre le mouvement des oulémas, le mouvement des religieux, défendu d'ailleurs dans des conditions, bon, ce serait trop long d'expliquer, par Albert Camus, par exemple, qui défend, disons, ce courant-là. Et puis, le courant de Ferhat Abbas, qui subit beaucoup de tracasseries administratives.
Je m'intéresse un instant aux Algériens en France. On a souvent l'idée que les Algériens arrivent surtout après la Seconde Guerre mondiale, appelés par des contrats professionnels, habillés en cours pour Renault par exemple. Toi, tu nous dis que non, il y en a déjà très tôt au XXe siècle.
Oui, il y a environ, en 1939, 100 000 Algériens qui sont arrivés en France, principalement originaires de Kabylie. Ils sont principalement installés dans quelques régions très importantes, les régions de développement de la métallurgie, de la sidérurgie. La région parisienne, bien sûr, l'est de la France, le nord de la France, l'île Roubaix-Tourcoing, et puis un petit peu la région marseillaise, qui est en fait une région à l'époque de transit. Et puis surtout la région lyonnaise. Hein. C'est là que se sont constitués les premiers centres d'enracinement de l'immigration ouvrière. C'est une immigration ouvrière, fondamentalement, qui participe à la création de l'étoile nord-africaine.
Ce sont des hommes seuls, souvent, qui partent ?
Ce sont des hommes seuls à cette époque-là. La migration familiale n'interviendra que plus tard, c'est-à-dire dans les années 50-60.
Et moi, ayant bien lu le Benjamin Stora, je me souviens avoir lu sous ta plume qu'on se sert de la force physique du Kabyle pour des chantiers très importants, le métro parisien en étant l'un d'eux.
Tout à fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement, une partie du métro parisien, ce sont des Kabyles qui l'ont fabriqué, construit, même avant 14, puisque je disais tout à l'heure, dans un de nos précédents épisodes, que les Kabyles ont été les premiers à venir en France, les premiers migrants. Donc, ils ont joué un très grand rôle dans l'expansion industrielle de la France. Oui.
Alors, je reviens dans les années 30. Parce que d'un côté, on a des mouvements indépendantistes ou autonomistes. On a compris avec toi les différentes nuances de ces mouvements-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que en France, on considère que les années 30, c'est les années de triomphe de ce qu'on appelle le parti colonial en 1930 et célébrer ce qu'on appelle, et l'expression est quand même très très forte, le centenaire non pas de la conquête de l'Algérie, le centenaire de l'Algérie, comme s'il n'y avait rien avant. Et puis en 1931, il y aura la grande exposition coloniale à Vincennes. C'est un moment très particulier.
C'est un moment extrêmement important, d'ailleurs dans 5 ans, on fêtera le bicentenaire de cette fameuse commémoration, le centenaire de l'Algérie. Parce
c'est
que
fou.
C'est effectivement, on considère que l'Algérie va rester de tout temps française. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'envisager une séparation entre ce territoire, ces départements, qui se sont d'ailleurs agrandis, parce qu'il y a les territoires du Sud, c'est-à-dire le Sahara. Le Sahara a été, conquise par la France et rattaché administrativement à partir, grosso modo, de 1902-1905. Mmh. Donc, si vous ajoutez le Sahara à tout ce qui constitue la bande côtière du Nord, eh bien, vous avez un pays avec ses 3 départements plus les territoires du Sud qui est grand comme 5 fois la France. Les frontières de la France, donc, puisque c'est la France, eh bien, c'est quoi ? C'est le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, et la Tunisie. Ça, c'est les frontières françaises. Oui. Donc c'est l'Algérie, par conséquent, qui construit, disons, le cœur de l'Empire français. Donc il est inenvisageable de se séparer, et on verra que ça va causer, bien sûr, une guerre terrible,
bien sûr.
La guerre d'Algérie, parce qu'il est inenvisageable de considérer une séparation, une dissociation. C'est le centenaire, effectivement, de l'Algérie. Mais en même temps que c'est l'apogée, avec festivités grandioses, etc.
En
même temps,
et en métropole,
c'est la naissance de l'étoile nord-africaine.
Mais c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a en même temps la célébration et la commémoration, et c'est cette célébration-commémoration qui fabrique l'oubli de la conquête. C'est-à-dire que,
raconte-moi ça.
Eh ben, parce que avec la commémoration du centenaire, eh bien, on passe complètement sous silence ce qu'a été la tragédie de la conquête. C'est comme ça qu'on ne saura pas ce qu'est la conquête.
Ah, donc tu me dis
parce que les historiens de la commémoration du centenaire vont fabriquer un récit national heureux.
Donc ce que tu me racontais pour le premier épisode, et on avait entendu des textes que tu avais lus, que j'ai cités, qu'il y avait une connaissance très très importante, y compris en métropole et y compris chez les politiques, de ce qui s'était passé. Et il y a un voile qui est jeté là-dessus, un effacement au moment du centenaire.
Exactement. C'est-à-dire que c'est dans la commémoration du centenaire, avec tous les livres qui sortent, les revues comme l'Illustration, etc., il y a un effacement de ce qu'a été l'extraordinaire conquête sanglante de l'Algérie. Parce qu'on me pose souvent la question, mais comment ça se fait qu'on ne connaît pas toutes ces atrocités, etc. On le sait par l'actualité d'aujourd'hui, bien entendu. Ben, c'est parce que l'effacement s'est effectué au moment même où il y avait le centenaire de la conquête. Donc il y a fort longtemps. Et on construit un récit où il y a des pionniers qui arrivent sur un territoire vierge et qui construisent un pays qui n'existe pas et qu'ils vont fabriquer de leurs propres mains. Il n'y a pas de population indigène, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas, disons, d'occupation violente, mais il y a la construction d'un pays nouveau. Hein, c'est ça que va montrer en particulier le pavillon de l'Algérie dans l'exposition coloniale de 1931, la naissance d'un monde nouveau, où rien n'existait auparavant. Or, on sait bien que ce n'est pas vrai. Il existait beaucoup de choses auparavant. Ne serait-ce que l'émir Abdelkader se déplaçait avec sa cour, avec 5000 livres de théologie, de philosophie, de poésie. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. Si je prends ce tout petit exemple pour vous dire qu'il y avait quand même beaucoup de civilisations avant, quand même.
Il ressemblait à quoi, ce pavillon de l'Algérie en 1931 ?
C'était le plus grand pavillon de l'exposition de 1931, bah on y montrait tout ce qui se fabriquait en Algérie, l'artisanat, bien entendu, l'agriculture, les arts, la culture, etc.
Mais d'une certaine manière, on reconnaissait que ce n'était pas un territoire de la République. Si on en faisait, dans une exposition coloniale, le plus beau des pavillons, c'était d'une certaine manière reconnaître que malgré 1848, malgré les trois départements, malgré les grands discours, c'était un territoire colonisé.
Eh bien, c'est là toute la contradiction fondamentale de l'Algérie française, qui est une fiction. C'est-à-dire que l'Algérie française est une fiction. C'est-à-dire dans le sens où c'est à la fois la France, et c'est pas la France. C'est-à-dire que c'est différent de la France. C'est-à-dire que c'est la même chose et c'est pas la même chose. Ouais. En d'autres termes, on vit ensemble, mais séparé.
Par la Méditerranée et aussi par la mémoire et par l'histoire, bien sûr. Et puis, il y a la Seconde Guerre mondiale. On avait parlé dans l'épisode précédent de la Première Guerre mondiale. Tu avais évoqué cette importance historique, y compris d'ailleurs pour les résistances à la mobilisation dans les Aurès, par exemple. La Seconde Guerre mondiale, comment ça se passe en Algérie, sachant qu'il y a une histoire plus complexe en raison de la présence de Vichy ?
Tout à fait. La Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy va s'installer en Algérie française. Et donc, le premier acte du régime de Vichy en Algérie, c'est l'abrogation du décret Crémieux.
Qui donnait la nationalité française aux Juifs.
Donc, les Juifs d'Algérie, qui étaient français depuis trois générations, quatre générations, ne sont plus rien. C'est-à-dire qu'ils redeviennent des indigènes privés de tous les droits.
C'est le cas de tes parents, par exemple ?
Mes parents, absolument. Ouais. Mon père et ma mère ont perdu la nationalité française. Mon père est né en 1909, ma mère en 1918, et ils ont perdu la nationalité française, et ils ont été chassés des écoles. C'est-à-dire que les Juifs d'Algérie ne pouvaient plus aller à l'école. Alors ça a été très bien raconté dans beaucoup de témoignages, par exemple, un très beau texte de Jacques Derrida, il y a un très beau texte de Jean Daniel aussi, qui raconte le traumatisme qu'a constitué la relégation de la communauté juive, la surprise, la stupeur même, sur le fait, disons, de n'être plus des citoyens français. Et puis, il y a les indigènes musulmans, qui eux aussi sont complètement relégués. Pétain va essayer de les opposer aux Juifs. Mais en fait, et ça c'est certain, ce que je dis c'est très documenté, ils ne vont pas s'approprier les biens des Juifs comme le suggérait le régime de Pétain. Les oulémas refusent de prendre, disons, les biens. Mais dans le mouvement nationaliste, il y a une fracture entre ceux qui sont pour la collaboration avec Vichy, sur la ligne classique « les ennemis de nos ennemis sont nos amis », et puis il y a ceux qui refusent la collaboration. Et celui qui refuse la collaboration en Algérie, c'est Messali. Et il est arrêté instantanément.
Messali Hadj.
Et il est envoyé dans un endroit absolument épouvantable, qui est un bagne, à Lambèze, dans l'extrême sud algérien, sourcils rasés, crâne rasé, fer aux pieds, parce qu'il refuse toute forme de collaboration et il sera ensuite déporté à Brazzaville. Mais d'autres, par contre, de son organisation, ont accepté la collaboration. Et ça, c'est une histoire, j'allais presque dire algéro-algérienne, qui est peu connue.
C'est-à-dire que j'allais même dire un peu tabou.
C'est encore tabou.
Ouais.
C'est encore un peu tabou. C'est soulevé, ça a été soulevé par déjà des écrivains. Je pense en particulier, par exemple, il y a un roman de Boualem Sansal, je crois, qui s'appelle Le village de l'Allemand, qui soulève, disons, cette question, qui est très intéressante et importante, parce qu'ils ont créé une organisation qui s'appelait le CARNA, qui était le comité d'action nord-africaine, qui était rattaché à Berlin. Mais Messali les a désavoués.
Et bientôt, la fin de la Seconde Guerre mondiale, le massacre de Sétif, on va en parler dans l'épisode prochain. Et évidemment, la guerre d'Algérie, ce sera l'objet de notre prochain épisode.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure, est un podcast original de France Inter.